Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast. J'ai nommé David.
Salut Valérien.
Et Hector.
Salut Valérien, salut David.
Salut Hector.
Salut vous deux. Alors, y a pas grand-chose à se mettre sous la dent au programme. Je vais être honnête avec vous. J'avais l'intention de préparer un quiz. Ah. Et puis j'avais oublié que ma cousine passait à la maison cet après-midi, donc du coup je n'ai pas préparé de quiz. Voilà, désolé pour ce petit passage qui ne sert à rien. Mais donc qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? On va quand même avoir un petit on s'en fout pas concocté par Hector. On va avoir quelques jeux du moment parce que Hector, en fait c'est un épisode pour toi,
oui,
Hector.
Oui, c'est vrai, c'est incroyable, je ne savais pas que j'avais tout sur mes épaules, là je stresse, mais c'est... je ferai de mon mieux.
A vraiment testé beaucoup de choses pour nous, donc voilà, ça c'est bien. Nous aussi on a d'autres petits trucs à dire, mais pas grand chose. Et alors on aura quand même des hors-jeux de David, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et voilà, donc je propose Hector que tu nous envoies dans le « on s'en fout, on s'en fout pas », la fameuse rubrique news du podcast.
Génial, merci beaucoup Valérien. En effet, donc le « on s'en fout pas », c'est quoi? C'est notre, comme le dit Valérien, notre rubrique d'actualité. Et en fait, on parcourt un peu les points importants qu'il y a eu dans l'industrie pendant la période entre la dernière fois qu'on s'est vu et aujourd'hui. Ici, il n'y avait vraiment rien de remarquable. Mais donc, je vais commencer par le premier point. J'espère qu'on ne va pas s'en foutre parce qu'il y a moyen, même si on s'en fout sur le point en tant que tel, il y a moyen d'avoir une discussion derrière qui peut être intéressante. Le point en question, c'est que le Summer Game Fest va avoir sa nuit d'inauguration le 7 juin. Est-ce que vous vous en foutez ou vous vous en foutez pas? Là, on a accordé qu'on s'en foutait pas, mais voilà, exact.
C'est ça. Pour qu'il y ait au moins un truc à dire sur l'épisode, ouais. On va dire qu'on s'en fout
exact.
Pas.
Ici, effectivement, on n'est pas tout à fait sincère, mais on a transformé un peu le truc parce qu'en fait, la news en question, c'est que effectivement, ce sera le 7 juin, normalement à 23h apparemment, heure d'Europe centrale. Et ce qui est intéressant et ce qui peut mener à une discussion ici dans cet épisode, là, c'est de voir, normalement, c'est quoi le Summer Game Fest? Sa nuit d'inauguration, c'est quelque chose qui remplace presque le 3. C'est pas complètement, parce qu'avant le 3, c'était aussi beaucoup les conférences des constructeurs. On sait qu'il n'y a plus de conférences de constructeurs en tant que telles, sauf pour Xbox. Donc et on s'attend à avoir encore un truc Xbox ce mois-ci. Mais... c'est Jeff Keighley, donc c'est son événement ici, qui lui prend une grosse partie des annonces et qui essaye de lancer justement cette période qui avant était tellement spéciale pour l'industrie et qui maintenant peu à peu perd de son intérêt, mais qui reste présente justement grâce à cet exercice. Et là, ma question était plutôt de se dire, ben voilà, on vit quand même une période assez curieuse, c'est une génération... que j'ai envie d'appeler, moi, décevante, et je ne sais pas si c'est juste ma perception, mais voilà, on arrive à ces moments-ci où je me souviens des fois où on se réunissait avant même d'avoir le podcast et on discutait de qu'est-ce qui pouvait être annoncé à l'E3, et on pouvait avoir des discussions qui duraient des heures. Ici, ma question
est
vraiment... Et
surtout, on était excités.
Et on était ultra excités, je veux dire, c'était vraiment quelque chose, moi, je me souviens, c'était mon Noël presque, ou ma Coupe du Monde, tu vois, c'est vraiment ces événements-là où pendant quelques temps, tu t'endors en pensant à ce qui va être annoncé à ce moment-là. Et ici, ça a complètement changé, j'ai l'impression. Donc, je crois que c'est non seulement ma perception personnelle, parce que ça pourrait être que juste moi, je perds un peu de l'intérêt, mais c'est vraiment quelque chose qui, normalement, a tendance à m'exciter. Vous, est-ce que vous voyez quelque chose? Comment va fonctionner maintenant? Parce que les annonces sont plus mesurées qu'avant. On a beaucoup d'annonces négatives. Les jeux qui prennent la plus grosse part de l'économie de l'industrie et donc qui vont driver, j'utilise un terme anglais, je m'excuse, mais les annonces sont aussi des jeux qui nous intéressent moins. Est-ce qu'ici, vous croyez que ce sera une nuit où on pourra retirer certaines choses? Par exemple, on discutait juste avant, il devrait y avoir le DLC de Elden Ring, donc ça, c'est vraiment chouette. Mais voilà, je voulais aussi avoir votre sentiment par rapport à l'industrie en général et comment vit-on maintenant toute cette période d'annonce qui, j'ai l'impression, est quand même moins excitante qu'avant. Valérian, je te laisse la parole par rapport à tout ce sujet un peu vaste.
Voilà. C'est très gentil. Je vais commencer par une boutade sur nos amis de Microsoft qui, en fait, je trouve que eux encore ils gèrent bien leurs annonces parce que même si
fait.
Les jeux ne sortent pas ou ne sortent pas dans les conditions dans lesquelles ils les ont montrées, au moins ils arrivent encore à vendre du rêve. Enfin bon, tout doucement ça commence à péricliter à cause du fait que la qualité ne suit pas toujours la qualité de l'annonce, quoi. Mais voilà. Mais j'avoue que, en fait, ici il faut remettre en perspective le fait que, par exemple, Sony a déjà communiqué comme quoi il n'y aurait pas de suite majeure à ces grosses licences. Donc du coup, ça dit déjà qu'on est dans une année où, bon, voilà, il y aura peut-être une nouvelle licence qui va émerger ou quelque chose comme ça, où il pourrait y avoir des annonces pour l'année prochaine, mais je veux dire, il n'y aura rien qui va remplir la fin de l'année. J'ai l'impression qu'en fait, c'est... Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est un peu ça que j'attends. C'est de voir un peu qu'est-ce qui va me donner envie de jouer jusqu'à la fin de l'année. Parce que pour l'instant, à part Balatro, sur lequel je vois que je peux passer encore 6000 heures, il n'y a pas grand-chose qui m'excite beaucoup. Et par exemple, Nintendo. Nintendo, si... Donc là, maintenant, on sait la Switch 2 sortira pas cette année, sortira l'année prochaine. Voilà. Il y aura probablement... Je sais pas, c'est peut-être eux les plus excitants. Si jamais ils décident de enfin montrer un peu ce qui risque d'arriver. Mais voilà, du côté Xbox, Sony, j'ai envie de dire, j'attends pas grand-chose d'eux. Et voilà, et donc ça serait plutôt chez Nintendo que... Enfin, j'espère qu'ils feront un chouette truc. Bon, eux, c'est leur direct à eux, c'est pas vraiment part du Summer Game Fest, enfin, ou si, ça fait partie, ou...
Je ne sais jamais, parfois, non, je pense que non, non, officiellement, mais bon, comme c'est une période où tout se mélange, je pense qu'on peut profiter, oui, justement, ça. Pour parler du global, c'est peut-être plus intéressant, effectivement.
D'accord, mais donc, c'est un peu eux qui... Voilà, sur lequel il y a un point d'interrogation où je me dis, ah, là, je pourrais peut-être être excité, quoi. Voilà. Mais je vais laisser David.
Oui, David, vas-y.
Non, mais en soi, moi, j'ai la même sensation que Valérian et que toi, Hector. En soi, moi, j'aimais beaucoup cette période à l'époque quand tu attendais vraiment un peu d'avoir un aperçu de tout ce qui allait sortir sur l'année... de tout ce qui devait te vendre du rêve entre guillemets pour chaque console. Et c'est vrai qu'aujourd'hui au final c'est une communication beaucoup plus diluée, donc t'as moins ce côté là et donc c'est plus un peu les indépendants, j'ai l'impression, qui peuvent briller dans ce genre de choses là ou les studios un peu plus petits. Moi j'ai l'impression un peu comme Valérian que Nintendo est peut-être celui qui peut vendre du rêve jusqu'à un certain point, étant donné qu'ils ont probablement une nouvelle console qui arrive dans pas très longtemps. Et du coup, ça fait que tu pourrais imaginer que soit ils te montrent quelque chose qui est trop beau pour être de la Switch sans te dire que c'est pour de la Switch 2, ou alors qu'ils t'annoncent la Switch 2 et que tu vois des jeux vraiment impressionnants pour ce qui est de la Switch, entre guillemets. Mais le problème, c'est que Sony, ça donne l'impression qu'ils sont dans cette phase où ils regrettent leur erreur d'être partis dans tout ce qui est jeu-service. Et du coup, on t'attend vraiment pas à grand-chose de leur part. Et Microsoft, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans cette phase de « on absorbe des studios » et ils ont pas tant de studios que ça qui peuvent sortir quelque chose de vraiment impressionnant ou en tout cas... ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que des studios comme Obsidian ou c'est Ninja Theory ceux qui font... Non, ceux qui font...
Ninja Theory, c'est
Hellblade.
Ouais, alors j'avais le bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des studios dont on sait soit ce qu'ils font, soit c'est des studios qui sont normalement pas assez grands pour vendre du rêve. Donc à part Fable, le nouveau Fable, j'ai du mal à voir ce que Microsoft pourrait proposer de vraiment excitant. Et du coup, ça fait que c'est un peu une année où, au final, j'ai l'impression qu'on attend tous de savoir s'il y aura une Switch 2 et quand est-ce qu'elle est annoncée, plutôt que d'attendre vraiment des gros jeux qui vont être annoncés et qui vont peut-être nous donner ce regard, quitte à ce que soit en 2026, mais de se dire, oulala, ce jeu-là, il a l'air incroyable, entre guillemets.
Tout à fait. En parlant, vu qu'on parle de la Switch 2, est-ce que... Vous croyez qu'on va avoir, pendant cette période, la première annonce, je crois, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a déjà eu d'autres, de jeu qui sortira officiellement sur Switch 2, où on avait des rumeurs, ici c'était une des brèves, que Persona 6, lui, sortirait probablement sur la nouvelle Switch. Mais est-ce que vous croyez qu'on va avoir un trailer et qui dira PlayStation 5, Xbox Series et prochaine Nintendo, ou pas encore?
Moi, j'ai envie de dire que tant que Nintendo n'a pas annoncé la Switch 2, on va avoir des trucs vagues qui sortent, comme ça sortira sur la famille Switch 1, ou une bêtise du genre un peu vague comme ça.
Je vois, je vois. Est-ce que il y a, parce que ici c'était intéressant, parce que là on parlait de certains jeux, ici on a mentionné Fable par exemple pour Microsoft. Est-ce que vous croyez par exemple que, juste pour passer un tout petit peu chez Sony, un nouveau par exemple Astro pourrait être annoncé pendant le Summer Game Fest, ou on s'attend vraiment à rien de côté PlayStation selon vous?
Mais il n'y en a pas un qui est en développement?
Je pense qu'on ne le sait pas officiellement encore.
Ah, on ne le sait pas officiellement?
Mais, ouais, mais on est presque sûr, je vais lire les rumeurs, mais il n'est pas encore annoncé.
Je pensais que c'était Enfin, je veux dire que ça avait été...
Mais je pense que c'est dans les leaks, je pense qu'on l'a trouvé, je crois. Mais j'essaie à vérifier, c'est vrai que je n'ai pas toutes les informations, donc tu as probablement raison, Valérian.
Mais donc, mais est-ce qu'un nouveau Astro, ça excite les foules? Probablement
non,
pas.
Ouais, non, t'as raison.
Le problème, c'est que là, ça dépend un peu du trailer. Tu vois, j'ai l'impression que ça peut être tout mignon, mais j'ai pas l'impression que c'est le jeu où tu vas être là, où ça, c'est le prochain système solaire. Entre guillemets, c'est pas ce serait pas un Starfield, par exemple, ou un The Last of Us 3, qui, quitte à ce qu'il soit bon ou pas, fait beaucoup de bruit. Entre guillemets.
Mais on est d'accord que, enfin bon, je l'ai dit au début d'année, mais je vais le redire, il faudrait quand même vraiment qu'on voit un truc de Naughty Dog, quoi. Même si c'est pas pour sortir cette année, il faut. Pour Sony, il faudrait ça, quoi.
Il faut un truc de ce niveau-là, effectivement, non? Et les seuls qui peuvent faire ça, c'est Naughty Dog. Peut-être un nouveau truc du studio de God of War, par exemple, aussi pourrait avoir cet impact. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent aller le chercher, en sachant qu'il n'y aurait pas de Ghost of Tsushima 2, non? Ni de God of War 3, ni de Horizon Forbidden machin 3. Donc, et comme David le disait, hors enregistrement, je pense... le nouveau jeu de Ben Studios devrait être un jeu service, non? C'est ça, David, que tu avais... qui sort pour l'instant, donc... ça ne va pas non plus exciter beaucoup de gens. D'ailleurs, ici, exercice compliqué que je me propose de vous proposer, justement. Est-ce que... si vous deviez me vendre du rêve... Tiens, imaginez, je suis déprimé, je me demande si je vais arrêter les jeux vidéo. Vous me dites... sois quand même connecté en juin, parce qu'il y aura ça, ça et ça. C'est quoi les ça et ça, selon vous?
Il en faut trois.
Oui, de préférence. Parce que c'est toujours mieux trois, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que pour la rythmique.
Alors, d'accord. Moi, je dirais... mais après, c'est pour mon excitation.
Non, bien sûr. Mais
c'est mon excitation que j'essaierai de te vendre.
C'est toujours le mieux, c'est toujours le mieux.
Moi, ce serait... donc, annonce de la Switch 2 avec une vue du nouveau Mario.
Voilà.
3D. Ouais, okay. Voilà. Donc, ça, c'est un.
Ça, c'est
deux,
pas mal, ça.
C'est le nouveau projet de Naughty Dog qui est une nouvelle licence. Nice. Donc pas
de Last of Us, Uncharted,
of Us ni Uncharted, voilà un vrai truc différent. Et en 3, mais alors là j'exagère, un teaser, donc en fait j'exagère de trop, un teaser du prochain From Software, voilà.
Ah, mais ça c'est, est-ce que ça c'est impossible?
C'est pas impossible, mais en vrai, qui... est excité pour un teaser de 2 secondes où tu vois juste un titre, je veux dire un truc comme à la Sekiro quand c'était sorti.
C'est vrai que c'est, mais
bon, voilà, mais là j'exagère, je suis désolé.
C'est pas mal,
voilà.
C'est pas mal, non, c'est pas mal. David, est-ce que toi qu'est-ce que t'as dans ta besace?
Je pense que je partirais sur la même idée avec la Switch 2 et Mario.
D'ailleurs, je vous coupe. Est-ce que ça peut arriver, tu vois? Parce que si vous mentez, tu vois, je vais être encore plus déprimé. Tu vois, j'irai après juin. Si. Vous êtes d'accord?
J'y crois.
Oui, vous croyez, vous.
Franchement, Nintendo est ultra bien placé. En fait, Nintendo est ultra bien placé pour marquer pour marquer les esprits, parce qu'en fait justement c'est une année un peu creuse pour Sony et Microsoft c'est Microsoft, donc enfin voilà, et donc je pense que Nintendo ils ont une carte à jouer ici qui est assez énorme pour vendre du rêve, vendre de la hype, qui est quand même le truc à faire. Tu rajoutes un petit Pokémon dedans qui est déjà prêt, à mon avis, parce que ça tourne sur Game Boy Advance. Enfin, voilà. Et donc, je pense qu'il y a moyen. Il y a vraiment moyen.
Tout à fait. Honnêtement, d'ailleurs, et après, je reviens sur les deux autres de David, mais honnêtement, s'ils annoncent la Switch 2 en juin et qu'ils montrent un nouveau Mario, un Pokémon, comme tu le dis, Valérian, et un remake de Breath of the Wild... Ah, ça, honnêtement, ça pourrait le faire. Parce que le remake, il rend dans la... Je le mets comme côté intéressant parce que c'est facile à faire, entre guillemets. Tu vois, je veux dire, donc, ils peuvent l'avoir facilement, ça n'implique pas 7 ans de développement. Donc là, pourquoi pas... Par contre, je repasse chez toi, David. S'ils annoncent en juin une nouvelle console, ça veut dire qu'ils sacrifient les ventes de Noël.
Oui.
Comment ils les sacrifient, vous croyez? Je veux dire... Parce que moi, j'ai envie de croire maintenant, comme je suis d'un naturel optimiste, s'il le montre en juin, elle sort quand même à la fin d'année. Mais...
Ah, c'est beau, ça.
Parce que, tu vois, c'est un grand sacrifice, non?
C'est la précédente Switch.
En septembre, c'est vrai, t'as raison, ben, c'est vrai, ça passe. Mais après, il sacrifiait quoi comme vente? Les 325 exemplaires de la Wii U. C'est un bon point. David, vas-y avec tes deux autres derniers éléments vendeurs de rêves.
Mais ça vend peut-être pas du rêve à balle, mais je vais être là. Je crois qu'on va probablement voir le James Bond de.
Ah, ça c'est pas mal, ouais.
Ok. De IO, ouais, exact. Donc je dirais que ça peut être chouette. Temps, ouais. Ça peut être excitant comme proposition. Et alors, donnez-moi une seconde que je réfléchisse pour le troisième. Parce que même si Valérie m'a donné du temps, j'ai pas une idée claire.
Non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, honnêtement, j'allais même me dire, il faut se connecter, par exemple, si je devais le faire, pour voir Fable. Parce que Fable devrait être proche de sa sortie. Et pourquoi pas? Honnêtement, ça peut être un jeu qui peut être vraiment intéressant à suivre. C'est un studio qui a fait que de très bons jeux. Bon, après, c'était que des jeux de voiture, effectivement. Mais je pense que. Est-ce que, par exemple, chez Microsoft, est-ce que vous voyez un Doom qui serait un peu le truc à mettre en évidence, qui pourrait sortir? Est-ce que ça pourrait vous exciter? Moi, honnêtement, pas vraiment, parce que je n'ai pas joué à Doom Eternal, donc...
Pas vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'un jeu qui pourrait être palpitant chez Nintendo, mais encore une fois, c'est Nintendo, c'est Metroid Prime 4, du coup.
Ouais, ça c'est... Il devrait sortir, hein, lui. Même s'il n'y a pas la Switch 2, je pense que Metroid Prime 4 sera montré pendant la période ici de juin à septembre. Parce qu'on sait pas.
Et alors, du coup, tu le sors en octobre, comme ça, tu as tes ventes
de Switch, voilà,
de Noël. Et puis.
Et après, tu
puis,
le ressors.
Tu le ressors Switch, voilà.
Sur Switch Prime, qu'elle va s'appeler.
Ah, c'est Switch Prime.
C'est pas mal. Et voilà.
Et toi, Hector, quelles seraient tes trois annonces?
Moi, pour un truc réaliste. Bon, ici, on avait bien vendu le truc de la Switch. Et il y avait une rumeur, je pense, qu'on a discuté il n'y a pas si longtemps, que ça allait probablement être montré en juin. Non? Et donc, j'ai envie de m'accrocher à ça, parce que ça, je pense que ça peut être vraiment bien. Comme je le disais, pour moi, Fable est quelque chose qui, je me dis, bon, c'est réaliste, ce sera montré, et ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir du GTA 6, vous? Moi, je pense que non. Donc, c'est pas ça que je vendrais.
Moi, je pense que non plus.
Et qu'est-ce qui... Moi, j'ai rien... Vous savez, qu'est-ce qui me vendrait du rêve? Que Bluepoint soit en train de faire un remake d'un jeu que j'aime bien, mais je ne sais pas lequel encore. Même Uncharted 1, ça pourrait me... Je me dirais, pourquoi pas. Je sais pas. C'est pas Returnal, apparemment ils font pas Returnal 2, donc Housemarque, j'ai rien, moi je souffre, hein. Moi je suis justement est-ce que par exemple, mais ici je regarde des choses pendant que je regarde The Witcher 4, est-ce que on le voit ou pas, je veux dire, le nouveau The Witcher, pour si ça parle pas de The Witcher 4, mais
Ah, ou
C'est
le
vrai qu'il
remake,
serait...
en fait.
Ouais,
Ou
c'est
le
vrai qu'il serait
remake.
temps pour redémontrer quelque chose, ouais.
On peut, hein, ouais. Et ça, je veux dire, si on accumule tout ce qu'on a dit, et presque tous sont plus ou moins crédibles à voir si Naughty Dog veut communiquer sa nouvelle licence maintenant ou pas, non? Ça pourrait faire quelque chose de bien, non?
Ouais.
Donc,
ouais, mais ça, d'un point de vue excitation, Naughty Dog, je veux dire.
Ce serait génial,
vois,
hein,
ça, 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 ça bat le reste, quoi. Mais bon, voilà.
Ce serait génial, ce serait génial. Et bah ouais, et si on a un nouveau Mario, effectivement, et qu'il est magnifique, ça, ce serait le plus chouette qu'on puisse. Parce que le gros risque, et pour l'instant, l'industrie est en train de prendre cette tendance, c'est qu'on voit le nouveau Mario et on se dit, ah, ça pourrait quand même tourner sur Switch, ça, non? Et là, tu vois, je sais pas si je pourrais surmonter cette nouvelle déception. Parce qu'un peu, cette génération de consoles, c'est un peu ça, non? Je veux dire, autant la machine est mille fois meilleure que la machine d'avant, autant les jeux dedans sont plus ou moins identiques. Et d'ailleurs, petit point dernier, et on clôture là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que la génération est décevante, même s'il y a des très bons jeux, tu vois, qu'on peut sortir? Ou est-ce que vous êtes quand même content?
C'est ce que je disais la fois passée, donc je maintiens ce que j'ai dit. Pour l'instant, je ne suis pas encore extrêmement satisfait.
Ouais. Tout à fait, tout à fait.
Ce qui fait la transition avec le prochain point, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est quoi le prochain point? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce point-ci?
Non.
Non,
parfait,
pas vraiment.
Parfait. Donc, on passe au point suivant. C'est la PS5 Pro à leaker, je pense, non? Donc, elle devrait sortir cette année. On a vu ses specs. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout pas.
Non, bec.
Oui, c'est vrai que c'est...
Ça sortez des jeux. Ouais. Sortez pas des consoles.
C'est fou, hein. Ça, c'est vraiment... Ben, le problème, c'est ça. Et ça rejoint à ce qu'on disait avant. Je veux dire, cette génération n'a pas beaucoup de sens. Peut-être impactée par le Covid. Ici, un des trucs qu'ils disaient, c'était pour que GTA 6 puisse tourner... à 60 FPS en 4K,
c'est n'importe
je pense,
quoi.
Ouais. Mais donc, ouais.
Ouais.
Mais voilà, ça. Apparemment, il y a une technologie derrière qui va faire tourner. C'est quoi? Oui, c'est ça. 4K à 60 FPS, ça c'est beaucoup. Et les autres jeux à 8K. Mais on est d'accord que c'est pas quelque chose que nous on va acheter. Est-ce qu'il y a une. Si on vous l'offrait, est-ce que vous la prendriez ou pas?
Non.
Oui, parce que je pourrais revendre ma PS5 et que ça
ouais,
me ferait de
oui,
l'argent,
c'est vrai,
mais...
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, j'avais pas pensé
oui.
à revendre, effectivement. J'ai aussi avoir deux fois la machine, ça, c'est fait beaucoup parce qu'il n'y a pas de place, mais effectivement, revendre est le bon truc. Mais c'est vraiment pas intéressant. Donc, d'accord pour que je passe au bref.
Mm-hmm.
Donc, oui. Qu'est-ce qu'on a? Ben, juste Embracer s'est séparé de Saber Interactive.
Oui.
C'est... Moi, Saber Interactive, je les repère parce que c'est ceux qui avaient fait des Witcher sur Switch. Je sais pas si. Je veux dire, c'est un studio compétent, je pense, mais ici, bon. Voilà, Embracer, c'est surtout ça le point à retenir et en train vraiment de.
Et.
Oui, vas-y, David.
Je pose la question, mais est-ce que Saber n'est pas parti avec tout un tas de studios sous son.
Ah oui, je pense qu'ils ont des trucs
sous
son. C'est déjà un gros pouce.
Celui qui
aussi,
fait
ouais.
Les. Ah, bon, c'est vrai. À moitié vide. Ceux qui font les. Allez, il y a eu le jeu VR annoncé récemment pour PSVR 2, qui était le seul gros jeu. Les jeux dans la Russie, dans le métro. Métro, voilà.
Ah
c'est
oui,
le,
ok.
Le studio
ah,
qui
ça,
fait
je
le métro est parti avec... ils n'ont pas la licence, je pense, mais le studio est parti avec...
Ah oui,
c'est...
Okay. Ah oui, ouais, okay, ça, c'est intéressant, mais voilà. Mais donc, Embracer est en train de vraiment de fondre peu à peu, non? Donc, très curieux comme stratégie.
Ça, c'est une...
Se demander,
oui. Ouais. Très bien, Hector. Tu l'as bien dit, je veux dire. C'est vraiment de la stratégie de pro, quoi.
Oui, c'est vrai. À se demander même, je veux dire, ici, si j'étais quelqu'un qui investit ce genre de truc, je me demanderais s'il n'y avait pas eu de blanchiment d'argent, ce genre de truc, toi. Parce,
oui,
que,
c'est quoi
parce que c'est vraiment très bizarre. Ils ont tout acheté, ils revendent tout. Donc, c'est un peu. Bon, sans rien sortir, en plus, entre les deux, et tout annulé. Donc, quelque chose de plus amusant, et ça peut être un bon truc. Top Spin va sortir le 26 avril. Est-ce que vous allez l'acheter?
Non.
Non?
Of que.
Oh,
on ne sait jamais.
Voilà.
Mais je ne sais pas, ça me fait peur. Mais on en avait parlé la dernière fois. Et en fait, c'est chouette, mais en même temps, c'est touqué. Moi, j'ai peur qu'il y ait de la
pub
partout.
Oh, c'est vrai, ça va être... Ouais, il faudra acheter ses raquettes et payer voilà, des microtransactions pour ça. Ça va être dur, ça va être dur. Sinon, il y a quoi? Il y a Persona 6, mais ça, on en a parlé. Devrait sortir en 2025. Ici, j'ai noté 2026, mais je pense que c'est 2025. Non, c'est, corrigez-moi si je dis des bêtises. Et sur toutes les consoles, donc ça inclut la Switch 2, justement, là, encore en rumeur, Switch 2, et les Xbox Series et PlayStation. Pourquoi c'est une news quand même qui sort sur toutes les consoles? Avant, c'était une exclusivité plutôt PlayStation. Et donc, ici, ils vont vraiment essayer d'être un produit mass market. Non, maintenant, la licence Persona doit se vendre beaucoup et peut se vendre énormément. Donc, pourquoi se priver?
Mais que ça sorte sur Switch, c'est vachement bien.
Et Switch, c'est vraiment, je pense, le
Switch
truc.
Switch 2, voilà, entre guillemets.
Et je pense que ça va être sa plateforme de prédilection. Non, à voir, bien sûr, tout. À voir comment ça tourne et tout ça. Mais...
C'est un bon jeu à jouer dans le métro.
Oui, exact. Et qui, en plus, en le mettant, je veux dire, si la Switch garde le principe de je me connecte facilement à la télé, ça peut être justement la façon idéale, parce que c'est aussi chouette à jouer sur son canapé, je pense. Donc, très, très chouette. Et voilà, ça finit en fait les actualités de cette période-ci.
C'était rapide. Hein.
Voilà, Valérian, je te rends la main. Voilà, exact.
Ah ben, écoutez, vous savez quoi? Tant qu'on est pour faire un speedrun de l'épisode, je vais vite faire mes jeux et puis je vais passer la main à David.
Nickel.
Mais en fait, moi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai avancé un tout petit peu dans FF7 Rebirth, mais pas de quoi parler de quelque chose. En gros, j'ai fini toute la partie ouverte dans laquelle j'étais et je recommence à faire des parties histoire. Enfin, la suite de l'histoire, quoi. David, lui, il a bien avancé, donc voilà. Si lui a envie d'en dire un mot, ce sera plutôt chez lui.
On peut garder ça pour le prochain épisode.
Sinon, en gros, je joue tout le temps à Balatro. Enfin, c'est mon jeu, c'est vraiment le jeu auquel je joue le plus pour l'instant. Et il y a eu quand même ce petit moment, qui est la première fois où j'ai réussi à avoir un combo de joker, de cartes, etc., qui m'a fait passer la barre symbolique. En gros, mon score était noté sous forme de notation scientifique. C'était assez incroyable. C'est la première fois, et je pense que ça monte jusqu'à, je sais plus, c'est 100 milliards avant de passer en scientifique. Je me rappelle plus exactement quel était le palier, mais donc on était à des scores de x10 exposant 15.
Ouais.
Donc quand même, c'était assez sympa, quoi. Voilà, et donc on a bien rigolé, parce que donc il y a quand même une petite anecdote derrière. Donc on joue sur Switch, et le combo consistait à dupliquer une carte de planète. Et donc les cartes planètes dans Balatro sont des cartes qui vous permettent d'améliorer la main que vous jouez. Et donc ici, la main qu'on jouait, c'était, je sais plus, la paire ou la plus haute carte possible. Et en fait, on avait une carte spéciale qui nous permettait, à chaque fois qu'on avait celle-là dans le slot de consommable, eh ben, ça fait x1,5 au multiplicateur. Et donc, bref, faut réécouter l'épisode précédent pour comprendre c'est quoi le principe de Balatro. Mais donc, à partir d'un certain moment, on avait, je sais plus combien, je pense qu'on en avait genre 40 ou 50 qui avaient été dupliqués dans notre... Ouais, si, quasi. Hein. Je vois ma femme qui fait non de la tête, mais je pense qu'il y en avait... Je sais qu'à un moment, il y en avait 34 dedans, donc voilà. Et ça commençait à devenir vraiment chaud, parce qu'à chaque fois qu'on jouait une main, le temps que ça proc... Donc on est en x4, enfin il y a moyen de mettre la vitesse du jeu en x4, et même le temps que tout proc, on sentait que la machine prenait de plus en plus de temps. Et donc à un moment, on s'est dit, mais est-ce que le jeu va planter, quoi? On était arrivé à ce point-là, en fait.
Ah, incroyable.
Est-ce que la Switch n'arrivera pas à suivre? Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'on arrivera à aller jusqu'au bout? Et bon, finalement, on n'a pas réussi à battre, je ne sais plus, c'était un truc du style 3 x 10 exposant 15 qu'il fallait battre, et on a fait 1,5 x 10 exposant 15, donc pas assez. Et donc le run s'est fini normalement, mais sérieusement, il y avait un moment dès qu'on devait faire des manipulations, et d'ailleurs sur Switch c'était un peu pénible, parce que comme on avait beaucoup de cartes consommables et qu'on peut pas vraiment les cliquer, enfin, ou alors il faut jouer en portable, parfois pour aller chercher la dernière carte qui était pas de ce type là pour la jouer ou des trucs comme ça, c'était pas ultra, ultra simple. Donc d'un point de vue ergonomique, c'est probablement mieux avec une souris. Globalement, tout ça pour dire que quand il sort sur, sur mobile, je vais l'acheter Day One, je pense.
Nice.
Parce que ce sera le genre de petit jeu parfait pour jouer dans le train. Bon, bref, donc voilà, ça c'était l'anecdote Balatro. Et sinon, du coup, je me suis remis un peu à jouer à Slay the Spire sur iPad. Et Slay the Spire, c'est quand même vachement bien. Donc, si vous n'avez jamais joué à Slay the Spire, ça reste quand même un concept absolument fantastique et extrêmement bien maîtrisé en termes de deck building en roguelike. Donc, voilà. Il faut jouer à Slay the Spire et à Balatro. C'est ma conclusion de mes jeux du moment.
Et donc ici, tu le jouais sur iPad, Slay the Spire, c'est ça?
Oui, Slay the Spire. Maintenant, je suis en train de le jouer sur iPad. Et donc, c'est assez rigolo parce que je dois refaire tout. En gros,
tu
dois redébloquer toutes les cartes. Ouais. Et en fait, parce que donc, tout le monde dit toujours dans les roguelikes, c'est dur au début, etc. Mm-hmm. Puis tu es là, genre, ouais, mais en même temps... C'est vache parce que les cartes que tu débloques et les reliques que tu débloques et tout ça, elles sont super fortes. Et donc, bien évidemment, quand tu as tout débloqué, bah, c'est plus facile aussi de réussir. Mais bon, enfin, voilà, passons. Je trouve ça un peu... voilà, c'est de la... pas spécialement de la bonne façon de voir les choses. Et donc, et d'ailleurs, rien à voir, dans Balatro, il y a un bouton qui permet de tout débloquer... Voilà, donc si jamais vous n'avez pas envie de débloquer les cartes avec les challenges, etc., bah, y a un bouton qui vous débloque absolument tout. Donc,
génial.
Voilà, encore un bon point pour Balatro.
Bien ça.
Voilà, David. C'est ton tour.
Bah, mon tour, moi j'ai continué à jouer à Unicorn Overlord, principalement, en plus de FF7 Rebirth. Et je trouve toujours que c'est toujours aussi addictif, c'est rigolo. C'est vraiment un jeu où je lance et je me dis je vais jouer un tout petit peu et puis je sens que j'ai envie de continuer à l'infini. Et non, je trouve vraiment que leur système de combat est vraiment fantastique et du coup ça fait... Ça donne vraiment envie d'expérimenter, quoi. Et comme ils te rajoutent des personnages continuellement, t'as un peu tout le temps cette poussée vers le « Ah, est-ce que je peux optimiser mes unités? Est-ce que je peux changer ça? Celle-là fonctionne pas très bien. Comment est-ce que je peux l'améliorer sans briser l'autre qui fonctionne bien, etc. » Et franchement, c'est vraiment amusant. C'est vraiment palpitant quand ils jouent. Donc non, c'est vraiment chouette. Je recommanderais, je crois, de l'acheter sur Switch si je devais, dans le sens où c'est vraiment des petites missions quand même. C'est des parties pas très longues, donc tu peux... C'est parfait un peu pour pouvoir le prendre, jouer 20 minutes et puis reposer la Switch et faire autre chose. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment super. L'histoire reste la même chose. C'est plus les personnages sont chouettes que l'histoire en elle-même, mais je trouve ça toujours aussi amusant.
Excellent.
Ça va. Tu penses que tu vas le finir, David? C'est toujours ça m'intrigue. Oui.
La grande question. Oui,
je crois. Moi, j'ai envie de croire que oui, pour l'heure.
Il est encore bien parti, donc oui.
Oui, pour le moment, oui. J'ai 14 heures dessus et pour le moment, je suis bien content. Du coup, à mon avis, c'est plus vers la trentaine.
Moitié du jeu.
Qu'on souffrira un peu. Ouais.
Il est facile ou mais difficile,
il fait pas 30 heures.
Il
y a deux questions en même temps, là. Attention.
Oui. Est-ce qu'il est facile ou difficile? J'ai essayé, moi je suis au niveau de difficulté un en dessous du plus difficile et je trouve qu'il est chouettement réglé à ce niveau-là, il est relativement facile pour être honnête. J'ai mis le niveau au-dessus pendant un petit temps et là c'est difficile. Du coup je dirais qu'en général il est forgiving en tout cas, il est pas méchant avec toi.
Ok. Et sinon pour la longueur, ici j'ai How Long to Beat devant moi.
Vas-y, Hector.
Et on est à main plus extra, 55. Main plus extra, pardon, 55 heures. Et main story, 45 heures et demie. Donc,
45
ouais,
heures.
Donc il est mal parti.
N'est pas du tout bien parti.
Exact.
Bref, pas de soucis. Ben, je pense qu'on va passer chez toi, Hector.
Génial. Je pense effectivement que ça peut être le plus judicieux, parce que, entre parenthèses, on a perdu David entre-temps, mais...
Okay. Ouais, faut pas le dire.
Mais c'est le bon moment, c'est le bon moment,
voilà, exact. Comme ça, on va pouvoir accélérer, vas-y.
Mais en fait, ici, c'est un cas très particulier, parce que j'ai été dans une période où j'avais fini Alan Wake 2, j'avais essayé de reprendre Assassin's Creed Mirage, et j'avais pas réussi, donc... J'étais un peu dans un trou vidéoludique et je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Il n'y a rien vraiment d'intéressant qui sort. Bon, Balatro, je pense que c'est l'exception. Ça, c'est vraiment un jeu qui...
Tout à fait.
Mais qui ne rentre pas non plus dans les trucs qui, normalement, je joue d'habitude. Donc, j'ai pas encore dépassé le pas à l'acheter. J'hésitais entre Switch et Steam. Bon. Et donc, je m'étais remis à la lecture. Donc, complètement, j'étais retombé complètement dans la lecture. Et donc, je ne jouais plus du tout. Et à un moment, je me dis, ah merde, il y a épisode de podcast. J'ai quand même... me réintéresser au truc dont on doit parler. Et j'ai regardé, j'ai pris ma PlayStation. Et moi, j'ai encore l'abonnement PlayStation Plus Premium, je pense, jusqu'en mai. Et donc là, il y a des essais de jeux. Et donc, je regarde un peu tout le long. Je rentre dans mon catalogue. Et je vois qu'il y a moyen de télécharger en version démonstration, version d'essai pour 1 heure. Ultros, donc je me dis, ah, je vais télécharger ça parce que c'est un jeu plus ou moins d'actualité. Je vois un jeu qui est méconnu, qui est donc Bonfire Pix, mais que j'avais entendu parler dans le podcast espagnol que j'utilise et donc, dont il recommande parfois des jeux un peu comme ça, un peu cachés mais très bons. Et j'ai vu que un des jeux du mois, ou en tout cas qui a été rajouté dans le catalogue, je pense que c'est un des jeux du mois, c'était Sifu. Donc je me dis, bon, ça on va quand même prendre et télécharger. J'ai joué à Sifu, Ultros et Bonfire Pix dans cet ordre-là, mais je vais vous parler dans l'ordre inverse pour regarder Sifu à la fin, qui est probablement le plus intéressant. Bonfire Pix, c'est un jeu, et là je vais profiter pour faire un peu de jouer sur la nostalgie, mais est-ce que je vais poser la question d'abord à David. Est-ce que toi, tu te souviens de Sokoban, David? Ou est-ce que tu connais Sokoban?
Oui. Oui.
Génial. Valérian, toi, tu connais Sokoban ou pas? Pas du tout, ça dit rien, c'est normal, c'est normal. Mais donc dans le podcast espagnol, ils connaissaient Sokoban, et donc apparemment c'est quand même un jeu qui est relativement connu. C'est un jeu où il faut bouger des boîtes, t'as une vue en haut, et t'as un petit bonhomme qui en gros bouge sur des carrés et doit bouger des boîtes, et donc il doit passer par des chemins qui sont parfois étroits, donc pour faire passer 3-4 boîtes, ça peut être compliqué. Tu vois, tu peux te bloquer par tes propres boîtes, et donc c'est un jeu de puzzle où tu dois amener des boîtes d'un côté vers un autre, avec en réfléchissant de comment les bouger, tu vois, le problème classique de si tu fais sans réfléchir, tu peux être facilement bloqué. Ici, Bonfire Pix, c'est un peu la même idée. Il y a un jeu, je pense, une idée derrière le jeu qui est t'es quelqu'un qui est en train de changer de vie et donc il prend une boîte où il y a toutes ses affaires et il doit aller les brûler. Et pour aller les brûler, c'est plus... Moi, j'ai envie de faire la référence parce que j'ai aucune bonne référence, mais comme des pyramides mayas où tu dois monter des différents étages pour arriver au bonfire qui est en haut, et brûler ta boîte. Mais donc, tu vas être aussi bloqué parfois parce que tu ne peux pas passer par n'importe quel chemin. Et donc, c'est aussi, tu bouges de case à case. Ici, c'est des graphismes plus à la Minecraft. Tu as une boîte en main, et avec ta boîte, tu peux être soit bloqué, soit pas. Donc, c'est plutôt un jeu de puzzle. J'ai pas trouvé ça incroyable. C'était amusant, mais j'ai fait 4-5 puzzles. Et il y avait quand même pas mal de hasard dans ce que je faisais. Je comprenais pourquoi j'avais réussi le puzzle. Tu vois, je comprenais après. Mais sur le moment même, j'avais l'impression que j'avais un peu chipoté. Et le gros défaut du jeu sur PlayStation, je pense, c'est les contrôles. Parce que tu le bouges au joystick, mais ça doit... Tu vois, c'est un peu... Il a les mouvements à la Silent Hill, tu vois, les tank movements. Et ça passe pas très bien. Donc... Et c'est... Par contre, c'est bien qu'il ait ça pour le jeu qu'il est, parce que tu dois avancer, tourner à droite, tourner à gauche. Tu vois, tout est fait de façon unidimensionnelle. Tu vois, je veux dire, ton mouvement est déterminant. C'est pas... Il n'y a pas de subtilité. Il est vraiment discret, disons. Il n'est pas continu. Tu passes vraiment d'une situation à une autre. Si tu bouges à droite, ton bonhomme va commencer à regarder vers la droite. Et donc... Ça, je pense qu'il a du potentiel, mais vraiment pas pour moi. J'ai joué après Ultros. Et donc ça, c'est un Metroidvania. Donc c'est un des nouveaux Metroidvania où on a envie de dire qu'il a un look à la Moebius un peu. Non, je trouve, et ça c'est assez remarquable, le look du jeu est vraiment très beau. Et on a vu plein d'images, je pense tous ici, on a vu des vidéos du jeu ou parfois des previews. Le voir en vrai et le bouger, ça fait quand même un effet supplémentaire et je le trouve vraiment magnifique.
Ah,
okay. Après, c'était un Metroidvania très classique. Donc, honnêtement, pour juger son look, je pense vraiment qu'il faut y jouer. Parce que moi, j'ai trouvé horrible quand je le regardais. Et là, quand j'ai joué, je me suis dit, ça a son charme. Ça reste moche, je veux dire. Parce que c'est moche quand même, tu vois, je veux dire, mais ça a son charme. Et quand ça bouge très bien. Par contre, ça semblait être un Metroidvania assez classique. J'ai pas particulièrement apprécié. Donc ça, c'est vraiment un jeu auquel je ne vais pas donner une seconde chance. Donc ça, c'est certain. Bonfire Pix, pourquoi pas, même si je pense que je vais vraiment...
Attends un peu, Hector.
Oui, vas-y.
Pour Ultros, du
Ultros.
Coup... mais donc, prise en main, est-ce que tu peux un peu mieux décrire ? Enfin, ça ressemble à quoi, prise en main ?
Pour moi, c'est un Metroidvania classique. Tu prends Super Metroid en lent. Mm-hmm. Donc, plus Super Metroid que Metroid Red, par exemple.
Ok.
C'est plus ou moins ça, en plus fluide.
Ok.
Pour l'instant, j'avais une épée, donc difficile à juger. J'avais une épée qui faisait un coup latéral court pour tuer les ennemis. Les ennemis n'étaient pas très beaux et n'attaquaient pas beaucoup. Et tu peux faire un dash pour passer vers le bas pour les éviter. Ça, c'était ça, c'est les deux mécaniques que j'avais.
D'accord. Ouais. Okay. Et par rapport à Prince of Persia... Là, je sais plus, c'est quoi le sous-titre
Sands of... Je sais plus comment il s'appelle, The Lost Crown ou quoi.
Lost Crown,
The Lost Crown, je sais plus. Ouais.
Ah, oui.
ça se joue... C'est beaucoup plus raide. Enfin,
Non, c'est pas plus raide, c'est plus lent. Et donc, c'est moins d'action. Et donc, moi, j'ai trouvé ça beaucoup moins excitant. Par contre, j'avais joué Prince of Persia plus longtemps. Donc, ce serait injuste vraiment déjà l'éliminer l'un par rapport à l'autre, mais Prince of Persia, pour moi, je le voyais plus comme un Dead Cells, tu vois, vraiment...
D'accord.
T'es tout le temps en train de faire des choses. Ici, t'allais lentement, t'explorais, tu vois, tu regardais, tu sautais, t'attaquais quand il fallait. Donc c'est un rythme, pour moi, beaucoup plus lent.
Ok, t'avais joué à Hollow Knight ?
J'ai pensé à Hollow Knight quand j'étais en train de parler maintenant, effectivement. Donc ça, c'est un peu ça. C'est
d'accord,
peut-être cette
lenteur-là. Comme ça,
voilà.
Je vois un peu... Ok, ça pourrait peut-être me plaire, même si j'avoue
mais
effectivement
je
le visuel...
Mais je suis très mauvais, voilà, exact. Je suis très mauvais pour faire ces descriptions-là, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce type de jeu.
Non,
mais ici, effectivement, c'est plus une lenteur à la Hollow Knight. Ouais. Et c'est vrai que le coup latéral... Lui fait penser beaucoup à l'attaque de Hollow Knight, où c'est une attaque très courte, je pense. Je sais plus, peut-être que je me trompe, hein, mais tu vois, c'est pas une épée longue. Prince of Persia a une épée plutôt longue, donc tu mesures. Et si tu dois être très près dans les premiers, mais probablement tu auras plus d'armes. Après, tout ce qui était mécanique et tout ça, ça semblait un peu difficile à lire. Un jeu qui va vouloir que tu te perdes dedans, donc pour moi, c'était vraiment pas. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt, mais vraiment pas pour moi.
Okay.
Et après, sinon,
le
mon premier test, c'était Sifu. Donc ça, Sifu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça c'est un jeu de kung-fu. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Je sais que, parce que ça c'est avant de jouer, je savais déjà que tu étais quelqu'un qui va... C'est un peu un roguelite, où tu vas traverser des niveaux, tu vas essayer, la fin du niveau, il y a des boss. Et avant d'arriver au boss, tu as plein de petits combats, c'est un peu un beat'em all. Mais le combat est censé bien représenter l'idée du kung-fu, donc tu dois esquiver. C'est un jeu où il faut être habile, non ? C'est vraiment ça qui ressort de Sifu. Il faut savoir bien combattre. C'est pas, on bourrine pas, on est un artiste de l'art martial en question. et donc moi je me suis dit bon, c'est clairement pas un jeu pour moi, mais je vais tester ici parce que on l'a gratuitement, c'est intéressant. Il m'a toujours fait de l'œil. Je l'ai pas acheté parce que je sais que moi je suis très mauvais pour tous ces trucs là et que j'arrive jamais à être bon dans des jeux de combat, donc je passais ici les 3-4 heures probablement qu'il faut pour apprendre à jouer, ça allait pas être mon truc. Mais donc je lance le jeu commence assez vite, donc ça c'est bien. On est un personnage qu'on sait pas très bien qui c'est, il rentre, il commence à attaquer, on a un petit tutoriel normal de dire carré c'est l'attaque rapide, tu vois, donc tu continues, tu tournes un peu tout le monde, t'as pas beaucoup d'input, tu vois pas encore le côté c'est quoi que je dois esquiver, tout ça, et tout le monde meurt plus ou moins facilement. T'arrives au boss du niveau, je sais même pas si c'est le tutoriel, c'est le prologue. Le boss s'appelle Sifu, ce que j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce que là, tu te dis, qui je suis ? Toi, tu le tues, tu vois qu'il y a un enfant, un de tes acolytes essaye de tuer l'enfant, donc lui coupe la gorge. tu survis et c'est toi l'enfant. Donc ça c'est et tu as une scène de Kung Fu après où tu as les crédits qui commencent à venir, tu vois, et tu dois et c'est là le tutoriel. Et donc à chaque fois que tu réussis un tutoriel, il y a un nouveau nom qui apparaît. Et le tutoriel là, c'est il faut esquiver, tu vois, il faut faire L1 vers le bas pour éviter les coups hauts. Il faut faire L1 vers le haut, vers le haut pour sauter quand tu as une attaque basse. Et là tu dis ouf, si je savais jouer à ça. Ça ce serait incroyable parce que tu vois, vous, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais vous recevez un coup et vous pouvez esquiver à droite, à gauche et après donner un coup de pied, tomber, se relever et faire une attaque. Ça semble être un jeu phénoménal. Moi, j'ai trouvé ça génialissime. La présentation cinématique, moi, j'ai, quand la fin du tutoriel apparaît, tu as le nom Sifu qui était là, j'ai quand même applaudi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas ça. Je pense que ça pourrait être un jeu pour Valérie. Oh, le problème, c'est que moi, je suis mauvais avec les contrôles.
Non, mais c'est un jeu pour moi.
Donc, je ne sais pas te dire si c'est bon. Mais je pense que tu dois le tester, Valérie. Je pense que tu dois le tester.
J'ai failli craquer et puis je ne l'ai pas fait. Et donc, j'étais très content de voir que tu l'avais mis au programme de ce podcast-ci. J'adore ce que tu en as dit. Ça m'excite beaucoup. Donc, voilà. En plus, comme je suis dans ma période roguelike, donc voilà.
Ah ben voilà, voilà. Et tu me diras, Valérie, parce que moi, je ne suis pas encore mort. Je sais que quand on meurt, on devient plus vieux. Donc, il y a un côté aussi où je ne sais pas être plus vieux, à quel point ça t'affecte. J'ai vu qu'il y avait des niveaux de difficulté. Donc, moi, j'avais pris le plus facile.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, ça, c'est à savoir. Je pense qu'au début, il n'y avait pas de niveau de difficulté. Moi, j'aurais tendance à croire que c'est quelque chose qui a été rajouté par après. Mais donc, le fait qu'il y ait un niveau facile pourrait être un attrait pour moi.
Oui, il l'avait.
Donc, ça, c'est bien, mais voilà. Mais je vous le recommande au moins le début. Moi, j'ai trouvé ça. Après, j'étais vraiment en manque. Donc, c'est vraiment comme si... Tu vois, j'étais un public facile. Hein, donc, ça aussi... Mais j'ai trouvé ça génial. Objectivement, je crois vraiment que c'était fantastique. Et ça donne vraiment, vraiment envie. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Ha. Vraiment, vraiment chouette. Et cette introduction, comme je le disais, le prologue, je ne m'y attendais pas. C'était vraiment bien. C'était chouette. C'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Donc voilà, ça c'était les trois jeux que j'ai testés rapidement, c'était les quick previews. Mais voilà, comme ça au moins je venais pas les mains vides.
Ouais. Ben, c'est magnifique parce que c'est toi qui es venu avec le plus de choses, Hector.
Génial, voilà, exactement. Pour une fois, ça fait du bien.
Ouais. Mais c'est excellent. Je pense qu'on en a fini avec les jeux du moment. Et donc, on va passer à la mini-rubrique hors-jeu pour aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il n'y a que toi, David, qui continue ta série de films.
Tout à fait. Et cette fois-ci, je viens avec un film japonais de Koreeda qui s'appelle Monster, qui a gagné le prix du meilleur scénario à Cannes l'année passée, je pense, et qui raconte l'histoire de un... En gros, c'est... J'ai essayé de raconter sans spoiler grand-chose, mais ça raconte, a priori, tout part de l'idée qu'il y a un enfant qui se fait bully à l'école, et ça a l'air d'être par son prof. Donc c'est ça le début, et en gros le film va être découpé en trois parties, où une où tu suis la maman du gamin au début, puis une où tu suis un prof de l'école, et puis une troisième où tu suis le gamin en lui-même. Et ça va reparcourir un peu la même temporalité, mais j'ai trouvé que le film était super, parce que je trouve qu'il arrive vraiment bien à faire ce truc où tu as un point de vue au début, et donc tu as une impression sur ce qui se passe, et puis tu as un autre point de vue, et tu vois, ça change vraiment un peu ta perspective sur ce qui se passe. Et ensuite, tu as le point de vue du gamin, et ça change encore ta perspective, et je trouve que le film fait vraiment bien ça. Je trouve qu'il raconte vraiment une belle histoire touchante, et que le fait qu'il y ait ce découpage en trois parties fait que tu es vraiment intrigué tout le long, parce que tu es là... Je me demande comment ça va finir, qu'est-ce qui va arriver, etc. Donc non, j'ai trouvé vraiment le film super, et je trouve que c'est vraiment joliment réalisé, je trouve que c'est vraiment touchant comme histoire, c'est beau, et je recommanderais largement à tout le monde.
Ah, chouette ça.
Cool. Magnifique.
Et c'est tout pour moi.
Ouais. Ben voilà. Ben si c'est tout pour toi, je pense que tout est dit, David.
Je pense aussi.
Je pense aussi.
Eh bien, merci, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés pour ce podcast, on va dire, un peu court. Bon, ça va. En fait, finalement, il n'est pas si court, mais où nous avons eu un sacré, sacré nombre de problèmes techniques. Donc voilà, on s'excuse d'avance s'il y a des trucs qui sont un peu bizarres. Donc nous avons le fameux Twitter X @podcasttoutestdit. Nous avons aussi l'adresse mail podcasttoutestdit@gmail.com. Vous pouvez trouver les informations dans les commentaires de ce podcast, la description pardon. Et nous avons aussi la chaîne YouTube qui s'appelle Sobrement Tout est dit, où vous pouvez aussi retrouver tous nos épisodes ainsi que des bonus, car nous faisons parce qu'en fait on l'a jamais dit, mais nous faisons les sorties du mois maintenant sous forme de vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà. Qu'est-ce qu'on joue pour le moment? David et moi, on joue Final Fantasy VII Rebirth et on ne sait pas exactement quel autre jeu on va jouer cette année. Comme on l'a dit tout à l'heure, on attend un truc qui nous excite beaucoup. Allez, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao.
Ciao à tous.
Ciao à tous.